L'acteur en scène canadien Robert Carsen vous attend à Aix.
Silencio.
Dans son atelier.
Demain, dès 19h20.
France Inter.
La voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet et c'est maintenant sur Inter.
Salut l'équipe de Mermet. C'est le Poitou. Après beaucoup de pluie, beaucoup de vent, des dégâts. Enfin, je peux sortir ma radio dans le jardin cet après-midi. J'écoute Mermet, bien sûr, 15 heures, bon sang. Et juste pour dire que le microbe s'est transformé en virus qu'on a tous et tous envie de passer. Ciao, ciao.
Oui, salut à tous. Bon, ben, faudra peut-être arrêter l'auto-congratulation avec le répondeur, d'une. Puis de deux, l'arbre généalogique de Mermet, quoi. C'est pas qu'on s'en fout, mais presque, quoi. Faudrait plutôt nous parler de ce qui se passe maintenant. Voilà. Salut.
Oui, bonjour Daniel, Catherine Arkilovitch. Donc j'appelle parce qu'évidemment je suis en train d'écouter la rediffusion de tes émissions qui pour moi m'ont accompagné pendant de tant d'années. L'histoire de Charlie, du piano bar, la coulée douce qui était quand même très très coquine. Voilà, c'est vrai que j'écoutais moins ces derniers temps parce que c'était plus politisé, voilà, pas toujours dans le sens que je souhaitais, mais ces émissions-là, un régal. Donc, merci Daniel. Ciao.
Bonjour Daniel. En fait, cette série À la recherche de Charlie m'apparaît avec le recul, puisque je les ai entendues lorsque ça apparaissait autrefois, comme un hommage muet aux femmes. Car ce père imaginaire, ce père absent, c'est l'époux des femmes seules, sans épaules solides pour les accompagner, ces femmes qui élèvent les enfants, qui se débrouillent tant bien que mal avec le budget. Alors ces femmes, je les ai baptisées les restes à terre, comme les femmes de marins qui restaient à terre. Voilà.
La coquine. Elle m'attendait, la coquine, en lisant le Marquis de Sade. Les infortunes de Justine me font rêver d'une vie moins fade, me dit-elle, mais votre présence pourrait, si le cul vous en dit, donner à mon existence un peu de piquant, cher ami. Cette Justine, lui répondis-je, a connu les pires tourments. Voulez-vous que je vous inflige de si terribles châtiments? En amour, j'ordonne ou je sers, tour à tour maître ou serviteur, je peux vous mener en enfer ou mourir par vous de bonheur. La dame referma son livre, ouvrit largement son corsage, m'offrant ses seins comme on délivre le fleuve en brisant un barrage. Et ce jour-là, dans son boudoir, en l'absence de son mari, nous illustrâmes de mémoire le roman du divin marquis. C'était le poète coquin. Salut.
Salut, merci, ça tombe très bien. Ce poème de notre poète coquin, parce qu'aujourd'hui c'est la coulée douce. Dans le cadre de cette rétrospective des émissions d'avant, là-bas, si j'y suis. La coulée douce, c'était l'émission qui débauche les oreilles, l'été 84 et l'été 85. Cette émission a été à l'époque un scandale, mais malgré les pressions de certains auditeurs, mais même d'élus, oui, il y a eu des pressions de certains élus. Je me souviens d'une lettre que le directeur de France Inter, Jean Garetto, m'avait montrée d'un député qui lui écrivait « Ils ne parlent pas d'amour à l'antenne, ils le font ». Et bien malgré ça, on a tenu bon, que grâce à Garetto, grâce au PDG de l'époque, qui était Jean-Noël Jeannonet, on a tenu bon. Je ne me suis pas fait virer cette fois-là. Et on a tenu tout l'été avec la coulée douce. Et même, on a remis ça sur le tapis l'année suivante. L'émission qui débauche les oreilles. Une de mes plus beaux souvenirs, de mes plus beaux souvenirs de radio, il y a quelques années, on faisait des débats après la projection du film que j'ai co-réalisé sur Chomsky. Donc c'était sérieux, il y avait un débat. Et puis après, le public est venu dire bonjour, tout ça, boire un coup. Et il y a une jeune femme qui vient me voir et qui me dit bonjour, très jolie jeune femme, et qui me dit bonjour, je m'appelle Coulée Douce. Et alors je dis, ah, c'est en rapport avec J'étais assez étonné et elle me dit « Ben oui, j'ai été conçu pendant votre émission en 1983, l'été 1983. » Voilà, j'avais devant moi le résultat d'une émission de radio, ça peut aller jusque-là. C'était pas tout à fait son prénom, mais c'était en tout cas son surnom. Donc on a fouillé avec l'équipe de la Bassi J'y suis dans les archives de l'INA et on a fini par retrouver quelques numéros de la coulée douce de ces étés-là. Et puis aussi, une autre émission qu'on faisait, que j'ai fait en 83, je m'emmène un petit peu, 83, 84, 85, et qui s'appelait Chair de poule, qui était une émission qui essayait de vous faire peur tous les jours. Je vais vous faire peur, on faisait peur tous les jours. Et on y arrivait pas mal, parfois il y avait Ugly, entre rigoler et peur, et puis d'autres choses qui faisaient très très peur. Et là, on a retrouvé une émission qui s'appelle Muriel, et qui est entre les deux, qui est entre le... Vous allez voir avec vos oreilles, parce que vous avez des oreilles qui voient, vous autres, AMG de la Basse, j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Pierre de Paris. Je viens d'entendre une petite info, là, la Basse, j'y suis. On supprimerait l'émission de Serge Levaillant, Sous les étoiles exactement. Une des seules émissions où on entend des tas de gens parler, qu'on n'entend qu'à cette émission-là. Ça n'a plus de nouvelles du Tarn-et-Saône. Ça n'a pas les petites recettes. Qu'est-ce qui leur prend à France Inter? Qu'est-ce qui leur prend? Qu'est-ce qui va rester? Mermet? Le Déon? Qu'est-ce qui va rester? Le jeu des 1000 euros? C'est tout.
Les salariés de Virgin ont obtenu 15 millions d'euros au lieu des 8 proposés initialement. Mais alors, je comprends pas. Ça voudrait dire que quand ils ont proposé 8, ils savaient déjà qu'ils avaient les moyens de payer 15. Alors là, j'en reviens pas. Si maintenant ils sont prêts à payer 15, c'est qu'ils peuvent peut-être payer encore plus.
Ah, quand j'étais gamin, dans les années 70, mes grands-parents disaient, quand il pleut, beaucoup, on va dégorger les escargots. Alors quand t'es gosse, franchement, dégorgé, tu comprends pas trop, parce qu'il y a une gorge... Quand le médecin il vient t'ausculter, tu vois, bon bref. Alors je comprenais rien du tout. Un jour mon grand-père il me fait viens voir, on va dégorger les escargots. Ah ouais? Bon, bah je le suis. Et là j'arrive, et tous les escargots, ils étaient dans une cage à oiseaux. Ils se baladaient là-dedans, il y avait des feuilles de salade. La métaphore, c'était par rapport à l'exception culturelle, évidemment. Hein? Bon bah voilà, bonne journée à tous.
La coulée est douce. Daniel Mermet.
Pour donner le ton, une lettre que j'ai reçue ce matin sur papier recyclé de Jeannette D. Et elle dit ceci, Jeannette D. Elle dit « Il est scandaleux de diffuser sur les ondes de pareilles insanités. Je veux parler des soupirs indécents de votre soupireuse professionnelle. » Elle n'est pas professionnelle. « Ces gémissements m'ont d'autant plus irrité qu'ils m'ont, pas plus tard qu'hier, porté un sérieux préjudice alors que je suis une femme honnête, soucieuse de sa réputation. » dit Jeannette. Je faisais tranquillement mon ménage à l'étage, alors qu'imprudemment, j'avais laissé la radio beugler dans le salon du bas. La fenêtre était ouverte, et quand je suis redescendu, j'y ai vu encadrer 5 têtes rigolardes de maçons italiens qui avaient prestement quitté l'échafaudage voisin. Allez donc, après cela, expliquer qu'il s'agit d'une émission diffusée sur une radio nationale. J'estime donc, monsieur Mermet, que vous me devez réparation. Ainsi, si les soupirs d'extase de votre radio ont pu être confondus avec les miens, je me dis que la réciproque peut être vraie. En conséquence, je vous demanderai d'avoir l'amabilité de passer votre indicatif 10 minutes plus tard, car c'est l'heure exacte à laquelle passe notre facteur, et il est si séduisant. Je trouve que Jeannette est drôle,
Et merveilleuse.
Voilà. Hein, c'est drôle. Elle est marrante, elle est drôle. Et puis bon, mais j'espère que ça va s'arranger avec les facteurs. Alors, en tout cas, c'est très marrant.
Ça commençait comme ça, gentiment. La vérité, c'est qu'en 1981, ça a été l'explosion des radios libres. Et ça a été formidable, l'explosion des radios libres. Et nous, à France Inter, à Radio France, on avait l'air un peu ringard. On avait l'air un peu timoré. On faisait un petit peu... voilà, quoi. Et cette effervescence, il y avait toute forme de radio possible, dont des émissions érotiques, des émissions coquines, voire très, très, très coquines, très gaillardes. Et moi, ça m'avait un peu agacé d'avoir l'air un peu ringard, comme ça. Et j'avais proposé, en 2002, une émission érotique à la direction. Le directeur, à cette époque, était resté absolument de marbre, absolument aucun intérêt. Et puis... Macha Béranger, qui faisait les émissions du soir, de nuit, vous vous souvenez d'elle, s'était absentée pendant un certain temps. Et donc, il fallait chercher quelqu'un pour la remplacer à toute vitesse, ce que j'ai fait avec Paula Jacques, que vous connaissez aussi. On a remplacé Macha Béranger pendant quelques semaines. Et on dit, bon alors d'accord, tu fais une émission érotique, mais c'est quoi tes machins érotiques, tes trucs érotiques? Ah, je dis, non, mais il n'y a pas de problème, c'est très, très culturel. C'est... Ah bon, d'accord, c'est quoi tes... Ah bah, il y aura des poèmes de Verlaine, c'est bien ça, oui, de Louis Aragon. Ah bah c'est bien, oui, bah, d'accord. Quoi de Louis Aragon? Je dis, bah, voilà, le con d'Irène. Le con d'Irène. Ah. Mais c'est juste le titre, ça. Oui, j'ai dit oui. Alors, si vous connaissez le texte, le con d'Irène, le mot con revient absolument tous les trois mots dans ce magnifique texte de Louis Aragon. Donc, vous avez compris, on a avancé avec le paravent, le fauné culturel. Et puis, Jean Garetto, qui était, lorsqu'il est devenu directeur du programme, n'avait pas oublié cette émission qui lui avait beaucoup plu, et il a tenu sa promesse. Et donc l'été 84, j'ai pu faire La Coulée Douce, réalisée par Christian Rose. Alors il y avait une séquence qui s'appelait Gratuit pour les dames, vous savez, comme dans les baloches autrefois, Gratuit pour les dames. Donc il y avait des lettres, des vraies lettres d'auditrices, et puis il y avait des histoires un petit peu comme celle-ci.
L'aimable enfant se soumit à tout. Son corps s'inclina vers la terre et sa courbe voluptueuse produisit, sur un nouvel horizon, deux astres de dimensions et d'influences différentes. 20 ans plus tard, j'ai encore cette phrase et ces images à l'esprit. Une tonnelle rouillée envahie d'une vigne vierge, aussi vierge que nous. Nous, c'était Maxime et moi. On avait 15 ans, 16 ans peut-être. C'était l'année du bac. Il faisait très chaud dans le parc du lycée et c'était juste avant les vacances. C'est là qu'on se planquait l'après-midi dans nos broussailles. On fumait des P4 ou des week-ends, selon la monnaie des commissions. On parlait des chances de Charlie Gaulle contre la montre et de Louison Bobet dans les étapes de montagne. Ben, Montès nous inquiétait. Et puis, enfin, elles arrivaient. Elles, c'était Liliane, Lucette et Solange. Maxime écartait le chèvrefeuille. Elle suivait l'allée de gravier rose jusqu'au saule qui faisait des taches de soleil jusqu'au bord de l'eau. Il y avait un plan d'eau dans le parc du lycée. L'hiver, on y faisait du patin à glace. Au printemps, pour le cours de sciences, on y trouvait des têtards. Ces têtards qui deviennent des crapauds. Mais nous n'en étions pas encore là, Maxime et moi. Têtards, oui, nous l'étions. Mais pas encore crapauds. Une tache d'œuf sur sa cravate luisante de crasse, un sourire blafard sur ses dents pourries, Crapaud était le prof de latin français. Un de ces pauvres petits profs martyrisés, persécutés par des générations de sales petits têtards. Mais soyons fidèles à notre enfance, la compassion fait vieillir. Crapaud était hideux, sale et méchant, et surtout il était d'une pudibonderie, d'une tartufferie, d'une bigoterie incroyable. C'était le temps où les filles n'avaient pas le droit de se maquiller ni de porter de pantalon. crapaud, le vétilleux, le pointilleux crapaud, l'œil sous les tables veillait à la rigoureuse application du règlement. Bref, nous avons tous connu, nous connaissons tous au moins un crapaud. Donc nous sommes là dans ces buissons, Maxime et moi, suspendus, exorbités, à guetter, à mater Lucette, Liliane et Solange. Elles sont assises dans l'herbe. Elles ne savent pas qu'on les observe. Liliane remonte sa jupe bleu marine et on voit très bien son short de gym. Lucette enlève ses ballerines. Nue. Elle est pieds nus. Elle sort son peigne. Elle se peigne. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit bâton ? Ce petit bâton qu'elle approche de sa bouche. Elle le lèche. C'est du rouge à lèvres. Elle se maquille. Elle appuie. Elle écrase ses lèvres l'une contre l'autre. Et Solange. Solange. Est-ce qu'elle va enlever son chemisier pour faire bronzer ses taches de rousseur comme l'autre jour ? Solange, celle qui ressemble à Lolo Brigida. Les mêmes cheveux, les mêmes yeux, les mêmes... Non, pas tout à fait. Un peu plus petit, les Robert. Même beaucoup plus petit. Mais que voulez-vous ? On avait 14 ans et c'était en banlieue. Or, un après-midi, un de ces derniers après-midi avant les grandes vacances, un après-midi encore plus chaud que d'habitude, Maxime m'attendait tout excité avec un tas de petits rires dans ce coin paumé du parc. De dessous un banc de pierre fendu et vert de mousse, il a sorti un cartable, un vieux cartable de cuir sans poignée. J'ai tout de suite reconnu le cartable de crapaud. Max avait piqué le cartable de crapaud. Et alors ? Alors on allait, à notre façon, corriger les copies ou on allait y mettre quelques têtes de poisson dans ce cartable et le planquer au-dessus d'un placard. Mais pas du tout. D'abord, Maxime a sorti la pipe, l'épouvantable pipe de crapaud. Il l'a balancée dans les fourrés. Un mouchoir sale, bien craquant, hop, aux orties. Quelques copies, quelques papiers, à la gare des Michards, aux orties aussi. Et enfin, il a sorti de ce cartable trois feuilles de papier manuscrites. Il a sorti l'enfer. Je me promenais un matin dans le parc lorsque j'aperçus ces trois dames enfilant. Maxime me regardait. Ces trois dames enfilant une allée très sombre, à l'extrémité de laquelle se trouvait une espèce de temple chinois. J'avais cru remarquer dans leur démarche quelque chose d'inquiet, de mystérieux. Il n'en fallut pas davantage pour piquer ma curiosité. Je les suivis avec précaution, et de charmille en charmille, j'arrivais sans être découvert jusqu'à un sentier très étroit. Ce sentier conduisait à une grotte. Là, Maxime me fit un clin d'œil et il répéta « Un sentier très étroit qui conduisait à une grotte. » Interrogeant un sable indiscret, j'y découvris la triple empreinte d'un pied féminin. Pour ne point me trahir, je quittai le chemin pour suivre le cours d'un ruisseau qui s'introduisait dans la grotte. Maxime me fit un nouveau clin d'œil. Je parvins à m'établir dans une excavation obscure et commode d'où je découvrais parfaitement l'intérieur de ce réduit solitaire où le charmant trio m'avait précédé. Trio charmant composé, j'allais le découvrir, de la pulpeuse Coralie, de la douce Mira, de la troublante, de l'incandescente Sappho. Enfin, nous voilà sans témoin, sous les yeux seuls de la nature et de l'amour, dit Sappho en détachant son chapeau de paille et rendant le même service à Coralie qui jetait autour d'elle des regards où se peignaient l'inquiétude et la timidité. Mes bonnes amies, répondit à voix basse la jeune Coralie, j'éprouve en ce moment une palpitation dont je ne démêle pas bien la cause. Si quelqu'un allait nous surprendre. Rassure-toi, reprit Mira. Tout le monde dort au château. Les trois nymphes avaient pris place sur un lit de verdure. J'ai rêvé toute la nuit à toi, reprit Sappho en s'emparant d'une des mains de Coralie et lui donnant un baiser. J'ai rêvé que réunis toutes trois dans une grotte charmante, nous épuisions dans nos transports la coupe inépuisable des voluptés. Il ne tient, est-ce là un songe, il ne tient qu'à nous, poursuivit-elle d'un air un peu confus, d'en faire une douce réalité. Ce mot prononcé, deux baisers pris sur la même bouche, commencèrent les prodiges. Des grâces procèdent à la toilette de la plus jeune, c'est-à-dire qu'elle s'empresse de l'embellir de tous les charmes de la nudité. La jeune Coralie, rougissant, se prête à leur désir, tandis que Sappho dépouille du tissu de soie qui les couvre une jambe d'ivoire aux pieds furtifs. Myra fait tomber un jupon envieux, délace le corset, enlève le fichu, desserre la coulisse qui retient un dernier voile de lin, et mille baisers saluent les attraits que leurs mains découvrent. Un instant, Maxime s'était arrêté de lire, comme pour prendre le temps, pour nous donner le temps de voir, nous aussi, la tendre, la pulpeuse et ingénue Coralie. Coralie paraît d'abord inquiète de sa nudité, mais le sentiment de la pudeur ne peut tenir longtemps contre les douces illusions de l'amour-propre et du plaisir. Chaque partie de son corps devient l'objet d'un éloge, le but d'une caresse. Sappho se précipite sur le frais bouton de sa gorge. Myra savoure un long baiser sur sa bouche entrouverte et presse mollement entre ses dents d'ivoire la langue amoureuse qui s'unit à la sienne. Chacune à son tour s'empare du trésor que l'autre abandonne, et Coralie partage enfin le feu qu'elle allume. Ses jeunes mains s'égarent à leur tour et s'empressent d'écarter les obstacles qu'elles rencontrent. Les vêtements tombent de toutes parts. Mes regards, dit Maxime, mes regards, mais il aurait pu dire aussi bien nos regards enchantés, erre avec une égale ivresse sur les trésors naissants de Coralie, sur les beautés accomplies de Sappho, sur les attraits touchants de Myra. Coralie est ensuite placée à genoux sur un petit autel de gazon. Sappho, dans la même attitude, au pied de l'autel, ne peut atteindre de la bouche qu'à la ceinture de la jeune Coralie, tandis que Myra, debout à côté, se trouve, relativement à Coralie, dans la position où cette dernière était par rapport à Sappho. Vous devez voir d'ici le lieu, la nature et les instruments du sacrifice. En vérité, on ne voyait pas très bien, ni Maxime ni moi. Il dut relire ce passage pour que nous puissions exactement nous figurer la torride mise en scène. Les soupirs, reprit Maxime en soupirant, les soupirs qui échappaient de Sappho et de Myra, les ondulations voluptueuses de leurs mouvements, décelaient la violence d'un plaisir auquel Sappho prenait une part active. Mais à cet essai succéda bientôt un exercice plus violent. Chacune des nymphes s'arma d'une branche de rosier après en avoir ôté les principales épines, puis le signal fut donné. J'assistais à un combat qu'Homère ne put imaginer. Ailleurs, la gloire est de battre, ici, elle est d'être battue. Myra voulut rentrer la première en lice. Tandis que Sappho exerçait sa douce furie sur des épaules de neige, sur des touffes de lys, objet d'un culte profane, Coralie portait plus légèrement des coups plus sensibles sur le tissu délicat d'une gorge d'albâtre et d'une verge vengeresse, poursuivit l'amour jusque dans son réduit le plus secret. Maxime avait du mal à déglutir, la chaleur de juillet sans doute. Il reprit pourtant. Mira irrite ses bourreaux de la parole et du geste et leur indique la place où leurs coups doivent tomber. Ce beau corps où la nature prodigale et lisse d'une main si libérale se colore insensiblement du plus vif incarnat, ainsi qu'on voit au matin l'horizon argenté se nuancer des couleurs de l'aurore. Coralie prend à son tour la place de Mira et ne se montre pas moins courageuse. Placée par ses compagnes dans 20 attitudes différentes, elle voit avec une émotion plus vive que pénible l'albâtre de ses charmes naissant disparaître sous un rideau de pourpre. Un seul endroit, le sanctuaire de l'amour se dérobe encore à l'orage, à l'abri des colonnes mobiles qui décorent et ferment son parvis. On en fait à Coralie de tendres reproches et l'on exige qu'elle expose sans défense le lieu sacré garanti jusqu'alors. L'aimable enfant se soumet à tout. Son corps s'incline vers la terre et sa courbe voluptueuse produit sur un nouvel horizon deux astres de dimensions et d'influences différentes, dont l'un semblable au soleil brûle, engendre, vivifie, tandis que l'autre, ainsi que l'astre des nuits, n'a qu'une lumière d'emprunt, une chaleur inféconde, et néanmoins s'est fait un parti parmi les astronomes. Brusquement, Maxime s'est arrêté de lire. « Regarde là-haut, derrière toi, la fenêtre. » Derrière la vitre sale du réfectoire, au second étage se tenait Crapaud. Maxime avait vu le reflet sur le verre des jumelles. Jumelles par où, sous le saule, dans l'étage de soleil, au bord de l'eau, Crapaud apercevait, détaillait, guettait, matait, Lucette ou Sappho, Mira ou Liliane, Solange ou Coralie. J'entends encore la voix de Maxime et je vois cet astre qui s'est fait un parti parmi les astronomes.
Un été de friandises frivoles, cet été 84 et l'été 85 sur France Inter, ça s'appelait la coulée douce. Je dois ici saluer une femme qui s'appelle Benoît Groult, parce que à un moment quand même de cet été-là, j'ai vraiment failli être viré. Il y avait une lettre qui venait d'une personnalité très importante de l'État qui demandait à ce que je sois viré. Parce qu'on avait évoqué l'inceste. Et là, c'était vraiment le casus belli, c'était terminé. Et le directeur m'a été à deux doigts de me foutre dehors à la porte. Et j'avais des courriers reçus par... Le courrier qu'on avait reçu, et en même temps que je me faisais engueuler, j'ouvrais le courrier. Dans ces courriers, il y avait une lettre de Benoît Groult, écrivaine, féministe, militante, qui m'envoyait une gerbe de compliments. Elle était en voyage en Irlande pour me dire à quel point ces émissions étaient magnifiques et étaient des émissions féministes qui prenaient les femmes en considération, non pas seulement dans leurs droits, mais dans leur sensualité, etc. etc. Et donc j'ai tendu cette lettre au directeur de l'époque. Et cette lettre m'a sauvé à ce moment-là. Donc, salutations à Benoît Groult. Donc, les lettres des auditrices de ces deux étés, ça s'appelait donc gratuit pour les dames.
Alice n'avait pas l'habitude de fréquenter les cafés. Mais ce printemps était trop doux pour ne pas profiter de la longueur d'une terrasse. Cet après-midi-là, elle choisit une brasserie située sur un grand boulevard. Les trottoirs promenaient un assortiment multicolore de pantins articulés. L'œil pervers, elle inventait des rendez-vous clandestins aux passants affairés. Ce mois de juin éveillait les corps assoupis à de luxurieuses promesses. Elle aperçut d'abord ses chaussures, de grands et beaux souliers, spacieux, confortables, cirés à point. À l'intérieur, elle pouvait deviner, sinon deux pieds, du moins des chaussettes, somme toute assez originales. De discrets losanges ocres et verts égayaient un fond beige. Par principe, elle trouvait un charme indiscutable à ceux qui osaient mettre des couleurs sur leurs orteils. Sans équivoque aucune, ils échangèrent un regard éclairé de mille surprises. Audacieux et souriant, il déplaça son 1,90 m et ses yeux noirs tout près d'elle. Elle alluma une cigarette. Le serveur vint chercher la nouvelle commande. « Bonjour, je suis de passage à Toulouse. Je trouve la ville fort accueillante. Je m'appelle Alice. Je suis un produit régional. » Rapidement, ils parlèrent de leur disponibilité. Chaque partie était libre de sa soirée et de l'envie de la jouer avec l'autre. Elle rêvait depuis longtemps déjà de faire l'amour avec un presque inconnu dans un hôtel de luxe. Ils marchaient côte à côte. Il mit son bras sur les épaules d'une femme éblouie. La moquette était épaisse, le lit somptueux et le champagne frais. Élastique, il s'approcha et prit la nuque d'Alice au creux de ses mains. Elle l'enlaça et se blottit contre le corps si chaud. Immobile, ils laissaient leur envie les envahir. Leurs mains apprenaient lentement les formes devinées. Elle égarait les siennes sur le dos musclé et il retrouvait la douceur de ses doigts au bord de ses seins. Impudique, elle s'offrait. Courait son corps de ses yeux reconnaissants, puis de ses mains gourmandes. Elle se pliait sous mille contentements. Il la fit tournoyer. Elle parvint à le déshabiller. Et lui, nu, fier et brandi. Elle promenait sa langue sur la peau odorante. Elle léchait tendrement là où triomphait l'orgueilleux. Il gémissait doucement, l'accompagnait d'un mouvement régulier. Il la renversa souplement, dressée au-dessus d'elle. Il la fixait, le visage ravagé de plaisir. Il effleurait de sa main ouverte les centres mystérieux, retardait la promenade. Elle roulait sous les caresses, abandonnée, ouverte. Elle était une ondulation rauque. Il dévoila la secrète lagune, le précieux tissu, la béance magique. Alice tendait ses reins. Elle criait de petites plaintes étouffées. Attentif, il menait l'ascension du délire. Ses doigts dansaient. Il la vit se casser, plier, frissonnante, haletante. Bien heureuse d'inconscience, elle se retourna. Elle suffoqua sous les assauts. Il se balançait, la dardait, la tenait, allait, venait, sauvage. Il s'écroula au bout d'un hurlement. Le champagne tiédissait.
C'était des vraies lettres, de vraies auditrices hein, qu'on recevait et qu'on interprétait. On avait une équipe de comédiennes. Là, je crois que cette comédienne, c'est Isabelle Attali, si ma mémoire est bonne, ça remonte à 30 ans quand même, qui interprétait chaque jour ces lettres d'auditrices gratuites pour les dames. L'érotisme qu'on a entendu dans l'histoire des Trois Grâces, vous pensez à Fragonard, évidemment, les hasards heureux de l'escarpolette, ou le verrou, et toute cette littérature du 18e qui fait honneur, nous ne l'oublions jamais, hein, à la culture française. On est pour beaucoup dans la création de l'érotisme, enfin l'invention de cette façon d'être, de vivre et de penser. C'est quelque chose d'important quand même. Pour nos vies et pour ce qu'il en reste. Pour ce qu'il en reste. Là, c'est une autre histoire. C'est une autre année, c'est 1985. Et ça s'appelait Chair de poule. Et on a retrouvé une de ces émissions présentées en compagnie de Brigitte Vincent.
Il est 15h35, je donne pas souvent l'heure, mais cette fois-ci je la donne parce que c'est l'heure de Chair de poule. Alors le téléphone, ça sonne quelquefois, heure régulière, comme ça dans les histoires de Daniel Mermet.
Ouais, ça a sonné.
C'est la nuit en tous les cas, on le sait.
C'est mes histoires, c'est toujours la nuit?
Non, mais hier c'était la nuit.
Ouais.
C'était très tard.
Alors attends, il faut qu'on résume le chapitre absolument. Précédent là. Imaginez ceci, une femme, jeune, belle, qui s'appelle Muriel. Elle est contente comme tout, et le téléphone sonne. Elle entend une voix dans le téléphone. Cette femme est fascinée par cette voix, terrorisée par cette voix. Aujourd'hui, on retrouve cette femme, Muriel.
Allô ? Allô ?
Cette voix. La voix s'installe entre la vie et elle, comme un brouillard, un écran, comme une vitre.
Chère petite bulle, ces femmes.
Elle n'en parle à personne.
Comme de la
dès qu'un téléphone sonne, elle sursaute.
Bulle.
Dans le métro, un type observe. Un sourire de limace.
Stible.
Elle court dans les couloirs. Dans la foule,
carabine.
Elle sort. À n'importe quelle station.
Lunettes.
La rue est aussi étouffante.
Caressez-vous.
Le type la suit.
Caressez-vous.
Dans les reflets des vitrines.
Caressez-vous.
Il surgit derrière un pilier de parking souterrain.
Bulle.
S'approche.
Bulle.
Lentement. Muriel hurle. Personne ne l'entend.
Cible.
Elle non plus.
Cible.
Elle hurle dans sa tête.
Bulle.
Dans sa tête, la vitre s'épaissit, devient opaque. L'entoure, l'enferme, comme si elle était prisonnière d'une grosse bulle noire, trouble, molle.
Cible.
Pendant 10 minutes, elle reste là, assise, dans sa voiture, dans les ténèbres du parking souterrain, incapable de démarrer.
Nous sommes si proches, chère petite cible. Chère petite.
Enfin, elle met le contact, comme un automate. Elle est dans les embouteillages, éclairée derrière les grands magasins. Soudain, elle hurle vraiment. Mais personne ne l'entend dans sa voiture, paumée dans les embouteillages. Elle hurle pourtant. Là, sur le siège avant, près d'elle, un doigt, oui, un doigt d'homme coupé.
I feel scared to be alone. I'm not here.
Chez elle, ses amis arrivent pour la fête. Elle est dans l'ascenseur. Cet appartement lui fait horreur. Où qu'elle aille, la voix la poursuivra. Partout. Elle a jeté le doigt. Elle a pris un Kleenex dans son sac, plusieurs Kleenex. Elle a pris le doigt et elle l'a jeté. Elle sait exactement où, dans quelle rue, devant quel cinéma. À travers les épaisseurs de Kleenex, elle a senti le froid. Le froid obscène et mou de la mort. Et maintenant, c'est la fête chez elle. Les amis admirent la vue, lui font des compliments pour son nouvel appart. Classe, chic, privilège. 70 mètres carrés, beau Grenelle, 25e étage, à deux pas du ciel. Muriel regarde le building en face. Elle regarde les fenêtres. Derrière, l'un de ces carrés de verre teinté, tapis dans le noir, avec un téléphone et un fusil à lunettes, une voix à la guette. La surveille. Surveille tous ses gestes. La fête est ratée. Les derniers invités vont partir. Salut chérie. Salut. Muriel redoute le moment où elle va se retrouver seule. Elle voudrait dormir. Dormir longtemps. D'un sommeil sans rêve. Toute la soirée, David, le journaliste, ne l'a pas lâché. Il lui a fait une cour timide et têtue. Il a parlé beaucoup. Tu m'écoutes pas? Tu m'écoutes? Il a voulu danser avec elle. Elle a dit qu'elle était malade. C'était vrai. Maintenant, Muriel est seule, toute seule désormais. Toute seule, enfin. Elle éteint les lumières. Elle ne laisse que la lampe dorée sur la table basse. Devant la baie vitrée, elle s'assoit près du téléphone. Elle attend. Elle ne sait pas qu'elle attend. Qu'elle attend la sonnerie du téléphone.
Bonsoir, chère petite cible. Chère petite bulle. Enfin seul. Vous, moi et la nuit.
Muriel lentement s'approche de la fenêtre. Elle regarde l'immeuble d'en face. Aucune lumière précise.
Non. Vous ne pouvez pas me voir. Pourquoi vouloir percer le mystère? Percer le mystère. Excusez-moi. Voulez-vous danser? Voulez-vous danser avec moi? Danser avec une voix. Vous vouliez, n'est-ce pas? Je sais que vous le désirez. Laissez-vous aller, oui. Comme ça. Un pas, un autre, la main, le bras, oui, comme ça, oui, oui. Oh, je vous ai serré trop fort. Souriez-moi. Muriel, fermez les yeux. Muriel, oui.
Je sens vos cheveux, votre nuque, votre peau, vos épaules. Fermez les yeux. Regardez-nous dans ce miroir. Tournez. Serrez, je vous regarde. Dansez. Dansez pour moi. Dégrafez. Faites glisser la robe. Non, non. Ne lâchez pas l'appareil. Ne le posez pas. Lentement, lentement. Vous êtes la première femme Vous dansez avec une voix. Je suis avec vous. Muriel. Voilà. Jetez la robe du bout du pied. Quelle merveille. Continuez. 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 Oui, comme ça, offerte, palpitante. Muriel, je vous aime. Je vous aime. Vous savez, nous allons faire l'amour. Muriel, maintenant, nous pouvons. Je vous caresse. Tendrement. Tremblant. Passionnément. Je vous possède. Vous m'appartenez, corps et âme. Et vous êtes heureuse. Et vous le savez. Où a-t-elle trouvé la force de raccrocher ? Elle est nue, seule, humiliée, souillée. Une poupée gonflable dégonflée. Une poupée télécommandée. Elle a obéi. Envoûtée, possédée. Folle. Elle se met à courir comme on court dans les rêves. Elle tente de s'échapper d'elle-même. Un pantalon ? Une veste ? Ses clés ? Son sac ? Sonne. Elle referme la porte sur sa peur. Elle appelle l'ascenseur. Elle entend un pas. Un pas. Dans le couloir. Taxi. Elle donne une adresse, celle de David, le journaliste. Elle fuit. David, en soupirant, n'en croit pas ses yeux. La pipe lui tombe de la bouche. Muriel chez lui. Sur sa vieille Remington noire, comme dans les polars à Merloc, il était en train de taper un article. Muriel s'effondre sur un fauteuil en cuir défoncé au milieu des bouquins. Un scotch, deux scotch, elle raconte. Elle raconte tout. Elle n'oublie aucun détail. La voix avec un fusil, le doigt coupé. La police ? Non. La voix le saura. Il ne lui fera rien tant qu'elle n'appellera pas la police. David regarde Muriel. Il allume sa pipe. Quel beau reportage. Un scénario formidable. Il se met à marcher de long en large. Il s'assoit, les pieds sur la table entre la vieille Remington et la bouteille de scotch. Il va enquêter sur ce type. Lui-même, David. David Marlowe. Il prend des notes sur un bloc. Muriel s'est endormie dans le vieux fauteuil. Épuisée, crispée dans le sommeil. Parfois elle tressaille. En dormant. C'est le jour. Le téléphone sonne. Muriel a bondi, réveillée en sursaut. Non. Elle n'est pas chez elle, elle est chez David. Elle est en sueur. Il fait jour. Elle va à la fenêtre. C'est juin. David parle au téléphone. Thank you. s'approche d'elle pour l'embrasser. Elle le repousse. Il sourit. Il comprend. Il lui fait un café trop fort. Il allume sa pipe. L'enquête va commencer. David ne doit pas se faire voir. La voix avec le fusil l'a repéré déjà. À la moindre erreur de leur part, si le dingue soupçonne quelque chose, il appuiera sur la gâchette. On sent dans sa voix qu'il est prêt à tout. Qu'il a franchi le désespoir, qu'il est de l'autre côté du désespoir, là où l'on peut tuer. David et Muriel l'ont compris. Ils vont dans l'appartement de Muriel sans allumer la lumière. Dans le noir, David compte les fenêtres du building. Il observe longtemps. Il a acheté des jumelles. Il épie une lumière, un reflet dans le canon d'une carabine, la flamme d'un briquet. Il y a 200 fenêtres, 200 rectangles d'acier et de verre d'où la mort peut surgir. Il enregistre l'air que le maniaque fait entendre au téléphone. C'est un disque d'Archichep avec Horace Parlon, Going Home, SCS 1079. Il feuillette les livres sur les armes, sur les fusils à lunettes. Lunettes de tir à grossissement variable, lunettes de tir à champ élargi, utilisables de jour comme de nuit, lunettes de tir à infrarouge. Le téléphone sonne.
Bonsoir, chère petite bulle. Ma jolie petite cible. Vous êtes seule ? Vous êtes bien seule.
Il y a souvent cette scène. La voix qui parle. Muriel muette.
Qu'allons-nous faire ce soir ?
Qui fait ce que la voix lui dit, qui obéit comme une marionnette.
Comme hier,
et David, qui écoute dans la pièce à côté, sur l'autre appareil.
Agenouillé, cambré tout à la fois.
David qui fait son enquête.
Implorante.
David qui aime Muriel.
Oui.
David derrière le mur.
Jamais amant ne vit aussi bien que moi son amour. Je vous vois si bien dans mon viseur.
Un soir, Muriel est seule. Seule dans le noir de son appartement. On sonne. Non pas le téléphone cette fois, mais l'interphone. Cette fois, l'homme est en bas. Il appelle d'en bas. Muriel sent son cœur battre comme une bête qui veut sortir. Seule, elle est seule dans l'appartement éteint. Et cette sonnerie qui n'en finit pas dans l'interphone. Elle décroche finalement. Après tout, elle est libre de ne pas ouvrir la porte du bas, puis de ne pas ouvrir sa porte à elle. Elle entend... Mais c'est moi, David. Ouvre, Muriel. Elle appuie sur le bouton de la porte du bas. Quelques instants plus tard, on frappe à la porte. Elle ouvre. Un type se tient devant elle. Elle recule d'un pas. Paralysée. Exorbitée. Le type fait un pas. Il a des fleurs à la main. Un bouquet d'orchidées blanches. Des lunettes fumées. Une lenteur épouvantable. Il va se jeter sur elle. Ou pire, ne rien faire avec cette lenteur. Refermer la porte. Et personne. Personne ne l'entendra. Personne ne l'entendra hurler. L'homme... sourit, comme gêné, comme étonné, avec une épouvantable tendresse. Une épouvantable tendresse d'homme.
c'était seulement un épisode. Et on n'a pas la suite. Les suites de cette histoire, c'était en trois volets. On n'a pas la précédente, on n'a pas la suite. Ça a été perdu ou bien ça n'a jamais été enregistré. Mais reconnaissez que c'est pas mal, la radio. Et la réalisation de ces émissions, La Coulée Douce ou Bien Chair de Poule, c'était Christian Rose, Archichef pour Brass Parland. Ce disque est absolument magnifique. Là, ce qu'on entend, c'est quoi, vous le savez? Horace Silver, merci à toutes et à tous. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site de France Inter, à la rubrique Programme, émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez nous retrouver aussi sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission. Et puis, il y a la page Facebook de là-bas, si j'y suis. La technique aujourd'hui, Éric Morin et Alexandre Chenet, Lucia Kuhn et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission, assistée de Grégory Salomonovitch. Et Marion Dupas attend vos messages, dès à présent, sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Mon garçon est étudiant en psychiatrie.
Ah, dis donc, c'est héréditaire?
C'est malin, ça. En tout cas, son studio est assuré à la Matmut.
Ah, ça, c'est malin. Ils sont sérieux à la Matmut. Pas comme le père.
S'il y en a beaucoup comme toi, mon fils va pas manquer de patients.
Offre soumise à conditions, disponible en agence ou sur matmut.fr.
J'avais l'habitude de nager à la piscine, mais depuis que j'ai gagné à Euromillions, j'en ai mis une dans mon jardin. Puis bon, ben, j'ai un peu agrandi. Bah oui, maintenant je nage 3000 mètres chaque matin, toujours en une seule longueur. C'est comme ça, j'ai jamais su faire demi-tour.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche?
Tirage Euromillions le vendredi et le mardi. Ce vendredi, jackpot de près de 166 millions d'euros. À partager au rang 1 et plafonné à 190 millions d'euros, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter, partenaire du 14e Festival du Bout du Monde, du 2 au 4 août, en presqu'île de Crozon. Retrouvez une programmation haute en couleur avec Joe Cocker, Sandra Nkake, Scapé, Amparo Sanchez, La Rue Quétanou, The Soul Jazz Orchestra, Jacques Higelin, Manu Dibango, Relema, Gaël Faye, Mélissa Lavo et de nombreux grands noms ou découvertes venus des quatre coins du monde pour 3 jours de fête à la pointe de la Bretagne. Retrouvez le Festival du Bout du Monde dans les programmes de France Inter et sur franceinter.fr.
Débord de 16h, 1 minute sur France Inter. On se retrouve lundi à 15h pour là-bas si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Laurent Blanc sera finalement le nouvel entraîneur du PSG. C'est la chaîne de télé Bein Sport qui appartient au propriétaire qatari du Paris Saint-Germain qui l'affirme cet après-midi. On ne connaît pas le montant du contrat, on sait seulement qu'il devrait être signé la semaine prochaine et qu'il court sur 2 ans. Laurent Blanc était sans activité depuis son départ du poste de sélectionneur de l'équipe de France l'an dernier après l'élimination des Bleus en quart de finale de l'Euro 2012. Les 3 militantes des Femen qui devaient être jugées en appel aujourd'hui à Tunis ne le seront finalement pas. Leur procès en appel a été reporté. Erreur de procédure, a expliqué l'avocat des 3 européennes. La justice tunisienne n'a pas laissé assez de temps pour permettre aux associations islamiques de faire appel de la décision du 12 juin dernier. En première instance, les 3 militantes Femen avaient été condamnées à 4 mois de prison ferme pour avoir manifesté leur soutien seins nus dans Tunis à leur camarade tunisienne Amina. Le ministère turc des Affaires étrangères va convoquer l'ambassadeur d'Allemagne à Ankara. La Turquie demande en fait des explications sur la convocation aujourd'hui de son ambassadeur à Berlin. Cela fait suite aux critiques adressées par la diplomatie turque à Angela Merkel au sujet de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. La chancelière allemande la bloque pour des raisons de politique intérieure à 3 mois d'élections législatives en Allemagne. Marisol Touraine confirme la concertation avec les partenaires sociaux sur la réforme des retraites commencera bien le 4 juillet prochain. Jean-Marc Ayrault recevra un par un syndicats et organisations patronales. La ministre de la Santé assurera la suite. L'allongement de la durée de cotisation est le cadre fixé par François Hollande depuis hier. Mais il y a, dit-elle, de la place pour une réforme ambitieuse. Ça ne se limitera pas qu'à cette seule mesure. 3 ans de prison ferme pour le co-auteur d'une violente agression dans le RER en 2010. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement cet après-midi, mais il n'a pas retenu contre l'agresseur la circonstance aggravante de racisme anti-blanc. Arnaud Gender avait frappé un homme sur le quai d'une station de RER alors qu'il prenait la fuite avec un autre homme. Plusieurs témoins les avaient entendus traiter la victime de sale blanc et de sale français. Une nouvelle fuite d'eau radioactive a été détectée à la centrale de Fukushima au Japon aujourd'hui. 250 litres d'eau se sont répandus selon TEPCO, l'exploitant du site endommagé par le tremblement de terre de 2011. Enfin, le plan d'alerte eau crue a été levé cet après-midi en Savoie. L'Arc, qui s'écoule dans la vallée de la Maurienne, avait été mis sous surveillance en raison de l'augmentation rapide de son débit. Par ailleurs, Météorage a fait les comptes pour la journée du 19 juin, c'est-à-dire mercredi. 256 056 éclairs ont été au total enregistrés dans le ciel de France. C'est la septième journée la plus foudroyée, dit-on, depuis 1997, année de création du réseau de détection de la foudre. Vous écoutez France Inter, 16h04.
Tous les dimanches à 18h10, tous politiques. Le rendez-vous politique de France Inter. Marc Fauvel.
Ce dimanche, Arnaud Montebourg est l'invité de Tous Politiques. Sommes-nous condamnés à voir nos usines fermées les unes après les autres? Comment le gouvernement compte-t-il faire baisser enfin le chômage? Et qui va payer l'addition de la réforme des retraites? Posez toutes vos questions au ministre du Redressement Productif sur la page internet de l'émission franceinter.fr ou sur Twitter avec le mot-clé TousPol. Rendez-vous ce dimanche avec Arnaud Montebourg dans Tous Politiques.
Une émission en direct sur France Inter avec les rédactions du journal Le Monde et de l'agence France Presse. À retrouver ce dimanche à 18h10.
France Inter.
La voix est libre.
C'est la fête de la musique aujourd'hui, vendredi 21 juin. Donc logiquement sur France Inter avec Sylvie Chapelle, on parle musique.
Vous avez fait combien de rentrées en fait à l'Olympia?
Oh, j'en ai fait, attendez, j'en ai...
Je suis passée une fois l'année dernière. Disons que je trouvais la scène extrêmement, tout à fait extraordinaire et j'ai eu envie d'y revenir.
Quel est le meilleur souvenir de cette période?
Oh, bah l'Olympia, là.
Qu'est-ce qui vous paie le plus de vos efforts, car vous vous donnez entièrement sur la scène?
Vous savez, la plus jolie récompense, c'est que je crois que c'est moi qui me la donne. Je suis content ou pas?
C'est vrai. Avec Sylvie Chapelle,
premier Olympia de votre vie hier soir.
On parle musique.
Oui. C'était à la hauteur de la réputation de cette grande et belle dame.
Bienvenue sur France Inter, bienvenue à l'Olympia. Tout Radio France a investi le plus ancien music hall parisien encore actif depuis ce matin et jusqu'à 3h dans la nuit prochaine. L'entrée est libre et gratuite, je le rappelle, pour les courageux. France Inter, culture, info, musique, bleu, FIP et le MOU fêtent donc la musique en direct et en public dans ce lieu si particulier. La seule salle qui passe avant le nom de l'artiste, selon son directeur, on parle musique avec Arnaud Delbar. Bonjour Arnaud.
Bonjour à vous.
Je vous remercie d'être avec nous au lundi 17 juin dernier, donc lundi juste qui vient de passer. 1417 artistes s'étaient produits à l'Olympia. Nous sommes fiers d'être de la partie aujourd'hui. Jean-Luc Hesse, le directeur de Radio France, disait il y a quelques jours que son rêve secret était d'embouteiller le boulevard des Capucines aujourd'hui. Quel était votre objectif à vous avec ce dispositif?
Oui, c'est ça, c'est son kiff. Là. Il veut boucher le boulevard des Capucines. J'espère, ce jour de fête de la musique est important et que les gens aient tous envie de venir un peu s'approprier cette Olympia, s'approprier ce que l'on peut y faire et les antennes de Radio France permettent toute cette diversité. Ça ressemble assez à ce qu'est l'Olympia, quoi. C'est le music hall, mais c'est aussi hall de music.
Vous avez participé à la programmation de cette journée ou vous avez donné carte blanche à Didier Varro?
J'ai vraiment donné, on peut pas. J'ai donné car il connaît tellement bien l'Olympia, il l'aime tellement et c'est tellement viscéral pour lui que je ne me voyais pas lui donner.
Pas de veto.
Mais absolument pas, non, bien sûr que non.
C'est aussi une démarche en faveur de la recherche contre le mélanome.
Oui, c'est un très beau projet et c'est un peu autour de ce combat qui est venu l'idée lors d'un déjeuner entre Jean-Luc et Jean-Pierre Babel, qui est un membre éminent du Crédit Mutuel et qui a été touché dans sa chair et personnellement par cette maladie et qui maintenant participe activement à la recherche et on va en même temps faire une bonne action.
Donc vous êtes aux côtés de l'Institut de cancérologie Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe. On a peu d'éléments sur la grande soirée qui se prépare à partir de 18h30. Didier Varro passera dans quelques minutes pour nous en dire davantage. Parmi les indices, il y a Franz Ferdinand. C'est eux qui vont ouvrir notre playlist tout de suite. Le groupe écossais sera de retour à Paris en live pour la première fois depuis 4 ans. Et c'est à l'Olympia que ça va se passer.
Ça ne peut pas être ailleurs.
Exactement. Franz Ferdinand fera un set de de 40 minutes qui sera retransmis en direct sur les antennes de France Inter, FIP et Le Move. Extrait de l'album Tonight Blood, voici Lucid Dreams. I'm gonna give my aimless love, my angry heart, my desire, a walk with wind.